Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des livres qu'on devrait lire en boucle afin qu'ils nous pénètrent tout entier, qu'on devrait lire jusqu'à ce que ces livres prennent chair en nous. Le texte dont nous allons parler ce matin en est un des publications signées de la main du pape François. Gaudate et exultate, réjouissez-vous et exultez. Texte programmatique de la vie chrétienne, celle des béatitudes. Folie et scandale pour les païens et pour nous tous, tant ce monde à l'envers paraît condamner le chrétien à une vie bien difficile et pourtant, si cette folie était en réalité la vraie sagesse. Lecture de Gaudate et exultate, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On continue à parcourir cette exhortation apostolique du pape François sur la sainteté. On avait fait une petite pause à l'occasion des fêtes de Noël, mais je vous le rappelle, c'est fait partie de nos grandes séries annuelles. Ce matin, nous sommes avec Nicole Vessière. Vous êtes responsable de la famille Bartimée. Vous allez nous présenter cette famille Bartimée. Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler donc on va rentrer dans le troisième chapitre intitulé « À la lumière du Maître ». Et on va commencer à parler des béatitudes, d'où mon introduction, le fameux discours sur la montagne et ces béatitudes connues des auditeurs. Je vais juste redire les trois dont on va parler aujourd'hui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Béatitude fort connue, mais il peut être difficile de rentrer dedans. Nicole Vessière, il peut être bon, avant de se lancer dans la lecture et le commentaire de ce texte, que vous nous présentiez un peu la famille Bartimée et ce que vous y faites.
Alors la famille Bartimée rassemble des gens en grande précarité. Nous sommes un service de paroisse et nous partageons la parole de Dieu et évidemment beaucoup d'amitié à travers un repas, à travers des ateliers. Voilà.
Ça fait aussi 20 ans que vous faites partie de Bonne Nouvelle Carmonde.
Oui.
Bonne Nouvelle Carmonde, il y a des gens qui connaissent. C'est donc une famille aussi spirituelle, un peu inspirée de Joseph Rezinski comme d'autres.
C'est ça. Et Bartimée est tout à fait issu des Sœurs de la Bonne Nouvelle. Moi-même, j'ai été engagée dans le mouvement. Et ce mouvement-là est en lien très direct avec le Père Joseph Rezinski, bien sûr.
Le Père Joseph Rezinski, c'est pareil, il faudrait nous le représenter en quelques mots et puis nous dire un peu toutes ces petites fraternités et familles spirituelles, en fait, de quoi est-ce qu'elles essayent de vivre ?
Le Père Joseph Rezinski, comme vous le savez, est le fondateur du mouvement ATD Carmonde, mais l'originalité, enfin sa spécificité, c'est qu'il a lui-même vécu en tant que pauvre. Et donc, par rapport à nous qui sommes chrétiens, parce que le mouvement ATD n'est pas de confession chrétienne, ni confessionnelle, le Père Joseph Rezinski, c'était de dire que le Christ s'était vraiment identifié à eux, qu'il n'a pas fait semblant, et donc que nous avons à écouter la parole des pauvres.
Voilà, donc c'est une grande et belle famille spirituelle. On vous invite de temps en temps à l'antenne et en général, à chaque fois qu'on vous invite, on se fait bien secouer. On va se lancer dans la lecture de ce troisième chapitre, à la lumière du Maître. Si on commence par le début, le pape François commence par parler de la sainteté. Ça tombe bien, c'est le thème de son exhortation apostolique. Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu'est la sainteté, dit le pape, d'abondantes explications et distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n'est plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Le pape François donc parle des béatitudes. À propos de la sainteté, Nicole Vessière, c'est un mot qui peut faire peur. On peut voir derrière cela une course à la perfection. Qu'est-ce que vous comprenez de la manière dont le pape François nous introduit à la sainteté au début de ce troisième chapitre ?
Le pape dit que c'est la carte d'identité du chrétien,
les
béatitudes. Je pense, pardonnez-moi, c'est à Gandhi que je pense, parce que cet homme qui était hindou, qui était un apôtre de la non-violence, a été touché par les béatitudes. Il dit, à mesure qu'augmentait mon contact avec les vrais chrétiens, je vis que le sermon sur la montagne était tout le christianisme pour qui veut vivre la vie chrétienne. C'est ce sermon qui m'a fait aimer Jésus. Les béatitudes, en français, ça veut dire en fait bonheur. Donc on pourrait dire que les béatitudes, c'est un chemin de bonheur. Les pauvres nous le disent à leur manière. Quand un de Bartimée dit « La sainteté, c'est donner du bonheur à quelqu'un d'autre. » Ça ne veut pas dire pour autant que les pauvres sont saints. C'est pas ce que nous voulons dire. Mais il y a cette recherche du bonheur.
Alors le pape François dit au paragraphe 64 « Le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint le don de soi, le vrai bonheur. » Ce qu'on lit donc dans les paroles du pape François et au long donc des commentaires de ses béatitudes, c'est qu'en fait il y a la promesse d'un bonheur secret en fait qui n'est pas connu, qui est comme caché. Si vous deviez, pour finir d'introduire un peu cette émission et les béatitudes qu'on va commenter, pourriez nous dire quelques mots du voyage que vous avez fait aux Philippines. Vous me disiez en préparant l'émission que vous avez vécu quelques temps dans un bidonville aux Philippines et que là-bas vous avez vu que cette promesse de Dieu s'accomplit. Expliquez-nous.
Voilà. Quelque part, si je suis là ce matin alors que je n'ai aucun diplôme, mais simplement cette expérience avec les très pauvres, c'est exactement ce que je voudrais dire. C'est-à-dire que, en allant aux Philippines, j'ai pu voir que Dieu était fidèle à son engagement, à sa promesse. C'est-à-dire que Dieu donne la joie, donne la vie, un désir de vie fou chez les très pauvres. Et que s'il y a tant de souffrance, ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, une du groupe nous le dit très souvent, elle dit « Mais c'est pas Dieu qui donne la souffrance, c'est les hommes. Dieu, il donne la joie et le bonheur. » Et donc, aux Philippines, on le voit, quand on est au milieu de bidonville et qu'on voit toute cette souffrance mais immense sur des kilomètres carrés, et qu'en même temps, on approche le très pauvre et qu'il nous sourit, qu'il nous donne des sourires avec une joie total, on comprend pas ce qui se passe, si ce n'est que c'est Dieu qui leur donne la joie. Donc il tient, lui, son engagement, et c'est nous, les hommes, qui ne l'étonnons pas.
Voilà, quelle magnifique introduction. Alors maintenant, on va se lancer dans ces béatitudes. On aurait pu dire aussi que le pape François a bien conscience que ce sont des valeurs, ces béatitudes, donc cette carte d'identité du chrétien, dit-il, dans un autre texte, je crois, que ces valeurs sont bien à contre-courant. Il dit aussi la chose suivante: écoutons encore Jésus avec tout l'amour et le respect que mérite le maître, permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d'un changement réel de vie. Première béatitude: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors le pape François, dans son texte, en fait, il y a toujours un peu trois mouvements. Il explique, on va dire, ce qu'il y a un peu de fou dans cette béatitude au regard de l'esprit du monde. Il déploie un peu, il dit quelle est la fine pointe de la sagesse de l'Église sur ce sujet, et puis quelle est la promesse. C'est comme ça qu'on va essayer de procéder. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pape François commence: l'Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur pour savoir où nous plaçons la sécurité de nos vies. En général, le riche se sent en sécurité avec ses richesses et il croit que lorsqu'elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre s'effondre. Qu'est-ce que vous avez compris de cette proposition à contre-courant qu'est cette première béatitude, Nicole Vessia?
Alors cette première béatitude, d'abord on pourrait dire qu'elle est traduite de plusieurs façons. C'est intéressant. Dans le français courant, on dit « heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes ». On entend dans la Bible de Jérusalem « heureux ceux qui ont une âme de pauvre ». Et dans la liturgie catholique, « heureux les pauvres de cœur ». Donc, ça c'est chez Matthieu. Et donc on sait que Matthieu a toujours une vision un peu de catéchèse. Il parle à un groupe en général, il dit « ils seront consolés ». Alors que chez Luc, par exemple, il y a un désir de parler à une communauté, il interpelle vraiment, c'est « heureux vous qui pleurez, vous serez consolés maintenant ». Donc, on voit bien qu'il y a deux interprétations, deux façons de voir. Et en fait, bon, les biblistes auraient beaucoup mieux l'expliquer que moi, mais c'est le fruit, ce sont des communautés qui ont été interpellées par les paroles de Jésus et qui l'ont vécu différemment, qui donc nous le rendent différemment. Pour Matthieu, ça sera, on fait d'abord, On pense à une pauvreté davantage spirituelle, c'est-à-dire une disposition des fidèles, des dispositions intérieures, un appel aux mains vides, à s'abandonner, à la confiance, voilà. Alors que chez Luc, c'est les pauvres tout court, comme dit le pape. Et en même temps, il faut les garder, ces deux aspects, ces deux façons de voir.
Mais pour ce qui est de la présentation à contre-courant, qu'est-ce que vous comprenez du fait que ça soit profondément à contre-courant, la manière dont le pape le présente ?
J'ai envie de dire, soyons humbles, parce que les pauvres sur cette terre, il y en a de plus en plus. Donc on ne peut pas dire facilement comme ça, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux.
Alors le pape François ajoute, les richesses ne garantissent rien, qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Je vous propose qu'on passe à un autre paragraphe, ça serait donc un peu la grande sagesse de l'Église, c'est le paragraphe 69, où le pape François parle de la sainte indifférence. Cette pauvreté d'esprit, dit-il, est étroitement liée à la sainte indifférence que saint Ignace de Loyola proposait, je cite le pape, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, dit le pape, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. La sainte indifférence, c'est donc, à lire le pape François, une forme de détachement qui n'est pas un renoncement intérieur et qui fait qu'on a une forme de suprême abandon et donc une grande liberté. Ça paraît très, très exigeant à lire comme ça.
Je dirais que dans ce paragraphe-là, justement, c'est difficile de penser que le pape s'adresse uniquement au sein de la porte d'à côté, à la classe moyenne, j'ai envie de dire. Là, vraiment, il met la barre très, très haute. La sainte indifférence. Enfin, on a envie de dire que c'est le travail des moines. C'est pas pour nous, cette sainteté-là. C'est impossible. Ailleurs, d'ailleurs, il nous invite simplement à suivre ce chemin des béatitudes. Mais, en tout cas, ce que je peux dire, en regard avec les très pauvres, c'est que si des moines vivent les ascèses les plus grandes, je pense aux chartreux, même à des bénédictins, ça c'est une pauvreté subie, alors que les pauvres la vivent vraiment. Et cette sainte indifférence, quelque part, ils la vivent, dans le sens où ils sont profondément dépouillés. On dit ils sont indifférents à toutes les choses créées. C'est la vie qui fait qu'ils deviennent, j'ai pas envie de dire indifférents, mais peu importe, ils sont tellement habitués jour après jour à encaisser les coups que quelque part ils aspirent à autre chose et ils savent du coup se tourner vers Dieu, vers l'essentiel. Ils en ont besoin.
En tout cas, c'est une autre manière de rentrer donc dans ce que dit le pape François. J'aurais pu citer plutôt à propos de la sainte indifférence, toujours dans le paragraphe 69, « De telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l'honneur que le déshonneur, une vie longue qu'une vie courte, et ainsi de suite, pour tout le reste, laisse entendre le pape François. » Si on avance donc dans cette béatitude, après avoir vu donc que les richesses ne sont pas le lieu de la sécurité, mais au contraire, à lire le pape François, lieu d'une plus grande tristesse, après cette sainte indifférence, pour cette première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, le pape François parle de la pauvreté tout court. Et là, il cite Saint Luc, vous l'avez dit tout à l'heure, Luc ne parle pas d'une pauvreté en esprit, mais d'être pauvre tout court. C'est Luc, chapitre 6, verset 20. Et ainsi, il nous invite également à une existence austère et dépouillée. Comment vous comprenez cette invitation radicale du pape François et en partie au regard donc de votre expérience?
Oui, et si vous permettez, dans ce même paragraphe, il dit bien et il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie que les apôtres ont menée et en définitive à nous configurer à Jésus qui, étant riche, s'est fait pauvre. Et ça me semble très important parce que c'est exactement ce vers quoi nous allons. Et c'est le monde ne se fera pas sans les pauvres. Si nous voulons, nous les chrétiens, accueillir le très pauvre, ça veut dire lui permettre d'exercer la mission que Dieu leur donne. Cette mission, c'est de révéler que Dieu est et dans tout ce qui est le dépouillement, qui nous rejoint dans nos tristesses, dans nos malheurs, pour la joie. Et ça, partager la vie des plus pauvres, pas seulement les rencontrer, pas seulement faire des gestes de charité, c'est plus ça. Écoutez, laissez-leur une place. Jean-Paul II disait, au banquet de la vie, permettez à tous de venir. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et là, vous
mais
serez...
Là, mais là, le pape va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il laisse entendre que même s'il ne faut pas choisir la misère, il faut choisir une certaine pauvreté. Il faudrait que tout chrétien vive une certaine pauvreté.
C'est ça, mais ça c'est difficile de le vivre tout seul, oui, peut-être quelques-uns. Mais quand vous rencontrez les très pauvres, ça devient, je veux dire, incohérent. Si vous avez votre super 4x4 à la maison, votre piscine, etc., croyez-moi, au bout d'un moment, ça va vous interroger. Et ça ne va pas vous culpabiliser. Vous allez vous sentir comme invité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la rencontre avec les pauvres nous donne envie de partager avec eux vraiment, de les accueillir. Et ça nous transforme petit à petit. Et du coup, tous nos biens deviennent scandale à nos propres yeux, tout simplement. Et on a envie de les partager. Donc tout ça, ça se passe en douceur. C'est ça la rencontre avec les pauvres.
Incroyable, en douceur. Vous faites l'introduction de la deuxième béatitude dont on parlera après la première pause musicale. Heureux les doux car ils posséderont la terre. C'est vous qui avez choisi les pauses musicales. Vous avez choisi la musique de Diaconia. Dites-nous
c'est
un
ça.
Mot peut-être de cette musique et de ce qu'est Diaconia en deux, trois mots.
Eh ben, ces paroles, priez-les, vous verrez, elles sont étonnantes. Donne-moi ton regard, Seigneur, pour que je puisse... révéler les richesses que tu as mises au cœur de l'autre. Apprends-moi à révéler ce que tu as mis au cœur de l'autre. Et ça, ce sont les paroles des pauvres eux-mêmes. C'était un groupe qui a été la locomotive de Diaconia, qui a quand même rassemblé 12 000 personnes.
Diaconia, c'était donc un grand rassemblement qui
a
eu lieu, je crois, en 2013,
c'est ça,
à Lourdes,
c'est ça.
Où de toute l'église de France a accepté pendant quelques temps de mettre les pauvres à première place.
Voilà, et alors c'était un grand mélange, il y avait de tout, hein. Et nous avons vécu 3 jours remplis d'Esprit Saint.
On va faire une première pause musicale. Lecture de Gaudete et Exultate pour ce 3e chapitre à la lumière du Maître. On vous retrouve tout de suite après la pause musicale. Nicole Vessière.
Donne-moi ton regard, ô Seigneur. Apprends-moi à te voir. Montre-toi dans le frère, ô Seigneur. Donne-moi ton regard. Un regard qui pardonne et qui ouvre nos cœurs à la vie. Un amour qui se donne un ami. Donne-moi ton regard, mon Seigneur. Apprends-moi
Emmanuel Pella.
Gaudate et exultate, lecture pardon de Gaudate et exultate, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en français, réjouissez-vous et exultez, c'est donc l'exhortation apostolique du pape François sur la sainteté qui a été publiée il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, et que l'on parcourt tout au long de cette année. On a un petit peu de retard, mais voilà, c'est le temps de l'Église, n'est-ce pas? On prend le temps de bien m'enduquer les choses pour les partager. Aujourd'hui, on parcourt le 3e chapitre avec vous, Nicole Vessière. Vous êtes responsable donc de la famille Bartimée, qui fait partie, on peut dire, des multiples familles du père Joseph Wrzesinski,
tout à fait.
Fondateur d'ATD Quart-Monde, en tout cas du mouvement ATD Quart-Monde.
Pour faire très court, Joseph Wrzesinski, c'était faire avec les pauvres et à partir des pauvres.
Et non pas pour.
Voilà.
3e chapitre, à la lumière du maître, donc, qui est une introduction donc, sur les béatitudes, cette carte d'identité des chrétiens, dit le pape François, avec une promesse de bonheur qu'on ne soupçonne pas. 2e béatitude, heureux les doux car ils posséderont la terre. Je le redis donc par pédagogie, pour ceux qui nous rejoindraient particulièrement. Le pape François, en général, fonctionne en 3 points pour ses béatitudes. Ce que cette valeur évangélique, si je puis dire, a de surprenant pour nous et pour le monde. Ce que la sagesse de l'Église peut dire là-dessus et puis quelle est la promesse qu'il y a derrière. Alors si on commence pour heureux les doux, le pape François commence de la manière suivante pour expliquer que tout cela est bien à contre-courant. Paragraphe 71, c'est une expression forte dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d'inimité où l'on se dispute partout ou de tous côtés. Il y a de la haine où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le règne de l'orgueil et de la vanité. Expliquez-nous, Nicole Vessière, ce que vous avez compris de cette proposition de l'Évangile de remonter comme la truite à contre-courant.
De fait, cette parole « Heureux les doux, ils posséderont la terre », j'ai envie de dire que c'est presque une parole violente parce qu'elle est tellement à contresens de ce que l'on voit partout. Elle est à contre-courant. Tout semble montrer sur notre planète, sur cette terre, ils posséderont la terre. Exactement le contraire. Ce sont les forts, ce sont les puissants. Si aujourd'hui la terre va si mal, elle n'est pas du tout possédée. Et donc ce sont bien les forts qui nous dépossèdent de cette terre. Et à contrario, les très pauvres, et pardonnez-moi de penser immédiatement à eux, ils souffrent tellement de violence. Ils n'en sont pas exclus de la violence. Eux aussi ont des mouvements, etc., etc. Mais ils en ont tellement souffert depuis leur plus tendre enfance. Enfin, elle n'est pas tendre, justement. Que pour eux, c'est la dernière solution, la violence. Ce qu'il faut, c'est bien être doux. Cela étant, eux-mêmes se posent la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est d'actualité?
Ils le vivent aussi comme un appel un peu fou. À vous entendre quand même.
Oui, c'est ça. Ils savent que c'est la réponse. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont touchés par Jésus. Bien souvent, ils ne connaissent pas le catéchisme, ils ne connaissent pas plein de choses, mais l'homme Jésus, ils le connaissent, ils le reconnaissent, et ils savent que c'est la réponse.
Alors le pape François continue toujours dans le paragraphe 71. Néanmoins, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style, la douceur. C'est ce qu'il pratiquait avec ses propres disciples, et c'est ce que nous voyons au moment de son entrée à Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, modeste, il monte une ânesse. Si on poursuit le texte, le pape François a aussi cette expression, hein, c'est vraiment un texte qui parle de nos vies. Hein. Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. C'est presque une manière d'éviter de faire un burn-out, à lire une chose pareille. Un peu plus loin, le pape François parle de, si on rentre un peu dans la fine pointe de la sagesse de l'Église, même si là il citait Thérèse de Lisieux, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leur faiblesse. Le pape François prend plusieurs exemples dans le Nouveau Testament et même un peu dans l'Ancien, où il parle de l'esprit de douceur. Qu'est-ce que vous en avez compris? Est-ce que vous pouvez nous, à la limite, nous lire ces passages et les commenter?
Pour revenir à ce que vous disiez dans le premier paragraphe, je pense à une de notre groupe qui disait « Finalement, ce qui nous élève vraiment, c'est la douceur. » C'est pas justement l'orgueil, non, c'est pas ça. C'est pas tout le reste. En quelque sorte, il nous dirait que c'est le style qu'il faut adopter, quoi. C'est le style.
Ce qui nous élève, c'est ça qu'elle dit ?
C'est ça.
C'est la douceur.
C'est la douceur. Une autre dit, si nous vivons tant du prétentieux... Non, ça c'est la parole du pape, pardon. Si nous vivons tant du prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués, épuisés. Une dit, si t'as la douceur, t'es en paix avec toi-même. T'es bien, donc t'es détendu. Que quand ça va pas, t'as une partie de ta vie qui va pas. Moi, je suis comme ça. Je suis électrique. Je suis bloquée. Et là, dans mon esprit, ça ne va pas être ça. Je vais pas écouter, je vais être tout le temps en train de ruminer, de fulminer.
Alors, vous aviez un autre exemple, j'aimerais que vous nous le citiez. C'est donc à propos donc, de la douceur évangélique qui est proposée à propos de la correction fraternelle. Le pape François parle donc dans des Galates. Il dit que la correction du frère doit se faire avec un esprit de douceur. Et je cite le pape François, et il rappelle « Tu pourrais bien toi aussi être tenté ». Donc toujours l'écriture qui dit ça, même lorsque l'on défend sa foi et ses convictions, il faut le faire avec douceur. Cette fois, le pape cite un psaume, le psaume 3, verset 16. Racontez-nous ce qu'un membre de votre groupe vous avait dit de sa compréhension de la miséricorde et puis la manière dont le pape François parle de la miséricorde de Dieu.
C'est ça. En 2016, nous avons fait un pèlerinage, le pèlerinage Siloué, qui rassemblait donc le mouvement du Père Joseph Wresinski, ses groupes, et nous avons échangé sur la miséricorde. On a offert un livre au pape, on lui demandait d'ailleurs aussi une mission, on lui a offert un livre, et dans ce livre, on avait travaillé, tous les groupes avaient travaillé sur la miséricorde, et un de notre groupe avait dit, oh ben la miséricorde, c'est comme quelqu'un qui dit, rentrez, venez boire un café. Alors je me souviens très bien quand j'avais entendu cette phrase-là, je m'étais dit, bon, je sais qu'il aime boire le café, ça m'étonne pas qu'il dise ça. Mais en fait, 2 ans après, le pape, dans une homélie à Sainte-Marthe, quand il commentait un texte d'Isaïe sur Dieu qui dit, venez, discutons à propos des péchés, que même s'ils sont rouges comme l'écarlate, je vous rendrai blanc comme la laine vierge. J'ai été très étonnée que le pape dise, finalement Dieu dit, venez, prenons un café. Ça voulait dire, il a repris textuellement cette phrase-là. Et il a expliqué, à partir donc du texte d'Isaïe et de cette phrase-là, que Dieu nous dit, quand vous avez des péchés, venez, discutons, n'ayez pas peur. Moi, ce que je veux vous donner, c'est le pardon. Et le pape dit dans cette homélie aussi, voilà comment les prêtres doivent, quand ils confessent, doivent accueillir le pécheur.
Et c'est dire du coup la douceur infinie que l'on pressent derrière cette attitude. Si on rentre dans le troisième, troisième temps de cette deuxième béatitude, heureux les doux car ils posséderont la terre, le pape François explique un petit peu davantage ce qu'est cette promesse de bonheur. Vous allez aussi vous allez commenter la lecture du passage que je vais faire et puis nous dire comment ça se vit à la famille Bartimée. Bref, est-ce que vous avez vu ça un peu de vos yeux? La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure. Et un peu plus loin, le pape François dit « Quelqu'un pourrait objecter, si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. » C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre. Autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Je continue un petit peu, c'est un peu long, mais c'est nécessaire. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur et les humbles posséderont la terre et jouiront d'une grande paix, laissant entendre que Dieu tient ses promesses, comme vous disiez au début de l'émission. Alors, quel commentaire ça attire de votre côté, Nicole Vessière ?
À Bartimée, justement, on a pris cette parole dans un carrefour, on a pris ce passage. Et j'ai été très étonnée de voir la définition qu'il donnait de doux. Le doux, c'est celui qui fait la paix, c'est celui qui est humble et c'est celui qui pardonne. Une autre dit, d'abord, il faut être doux avec soi-même. Une autre encore, c'est doux envers Dieu, c'est-à-dire être en communion avec lui, être docile à Dieu. On voit qu'à travers ne serait-ce que ces quelques petites définitions, ils savent très bien ce que veut dire le mot être doux. Une autre dit, moi ce que je demande à Dieu, c'est de me donner un cœur aimant. Donc automatiquement, doux et humble, ce que je ne suis pas. Je suis peut-être une fois en passant, mais pas souvent. Finalement, quelqu'un de doux, c'est une personne qui est gentille, qui peut rendre service à n'importe qui. Et quand je pense à cette personne qui dit ça, je peux vous dire que c'est quand même très fort. Ce sont des gens qui ont été placés dès leur enfance, par exemple, qui ont subi des violences conjugales, dont les enfants peuvent être en prison, les enfants ont été placés, ces gens-là n'ont plus rien, ils n'existent pas, que ce soit devant les juges ou devant les assistantes sociales. Ils ne sont pas entendus, ils ont des santé délabrées, ils ne mangent pas, et eux viennent vous parler de la douceur, de cette attente qu'ils ont des personnes, comme ils disent, gentilles, c'est-à-dire qui les écoutent, qui pardonnent.
Alors Nicole Vessière, juste, quand le pape François dit « quelqu'un pourrait objecter si je suis trop doux », on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible, bref, en gros, je vais faire marcher dessus, et que ma vie va être bien plus compliquée que si je montre les dents, hein, pour le dire cette fois avec mes mots. Toutes les personnes que vous fréquentez dans la famille Bartimé, donc on redit aux auditeurs, hein, pour ceux qui nous rejoindraient, c'est souvent des familles qui sont, qui sont issues du quart-monde, comme on dit.
Oui.
Ils n'ont pas aussi eu envie de montrer les dents de temps en temps. Est-ce que vous avez souvenir comme ça d'histoire, autre histoire que celle que vous citez, qui pourrait montrer que cette folie est une promesse?
C'est évident que pour eux, ça aussi, ça leur pose question. Souvent, ils disent « Oui, bah ça sert à quoi? T'es doux, tu pardonnes. » Et puis après, on te marche dessus, on te prend pour un moins que rien. Alors, eux aussi, ça les interpelle beaucoup.
Et est-ce que vous avez souvenir comme ça d'une rencontre ou d'une histoire dans la famille Bartimé où on voit en fait qu'il y a là une promesse, c'est-à-dire que quelque part Dieu tient sa promesse, comme vous disiez au début de l'émission, et qu'au final la douceur est récompensée, et pas seulement, on va dire, dans l'au-delà, mais dès ici-bas. Est-ce qu'il vous revient en tête un exemple?
Précisément, pas à ce moment-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que comme ils mettent en parallèle en permanence heureux les doux et le pardon. Quand ils disent que Dieu les aide à pardonner, que ça leur donne la paix, et la paix, c'est retrouver la vie, c'est retrouver enfin un peu de douceur, ça, ils en témoignent très fortement. En permanence liés, heureux les doux, et aussi le fait que Dieu les aide à pardonner. Et sans Dieu, ils ne peuvent pas pardonner.
Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté, dit le pape François en conclusion de cette deuxième béatitude. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. On va faire une deuxième pause musicale, et puis on va vous retrouver pour parler de la troisième béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift. The baffled king composes hallelujah. Hallelujah.
Dans la vallée de la Rance, 93.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Gaudate et Exultate, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes aujourd'hui avec Nicole Vessière, pour ceux qui nous rejoindraient, responsable de la famille Bartimée, qui fait partie de la grande famille issue de Joseph Wrzeszynski, fondateur donc du mouvement ATD Quart-Monde, grande famille spirituelle, on va dire, où l'on apprend à vivre en toute amitié avec les plus pauvres. Joseph Wrzeszynski, vous le disiez, un de ses leitmotifs, c'était pas faire pour les pauvres, mais avec et à partir des pauvres. Nicole Vessière, troisième béatitude que le pape François donc nous propose comme méditation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il commence, toujours pour montrer combien tout cela est à contre-courant. Le monde, ce paragraphe 75, le monde nous propose le contraire, le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que c'est cela qui fait la bonne vie. L'homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer. Cette valeur à contre-courant, qu'est-ce que vous en comprenez ?
Mais je trouve qu'elle est scandaleuse. C'est vraiment une parole qu'on ne peut pas dire. À qui on va dire ça ? Est-ce qu'on va dire ça à nos enfants ? On va les faire grandir avec ce programme-là. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On voit bien qu'on fait exactement tout le contraire dans notre éducation. On cherche le divertissement, on cherche à ce qu'il soit le plus heureux possible. 1000 activités, même l'ennui devient insupportable. Donc,
on les protège de la souffrance, c'est ça que vous voulez dire ?
Complètement.
Et donc ? Qu'est-ce que vous en comprenez ? Enfin, vous montrez à quel point c'est... Enfin, l'homme mondain, nous sommes tous cet homme mondain, c'est ça que vous voulez dire ?
Quelque part, oui. Comment nous laisser interpeller par cette phrase ? Mais qu'est-ce que nous dit Jésus ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ?
Un peu plus
personnellement.
Loin, le pape François dit, à propos de cet homme mondain, il s'ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, croyant qu'il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais manquer. La deuxième chose, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Juste, je voudrais dire que ça, c'est exactement l'attitude dont souffrent les pauvres. C'est-à-dire que quand les gens les croisent, les regards fuient, on ne les regarde pas. Ils se sentent transparents, ils n'existent pas, ils sont comptés pour rien. C'est exactement déjà là que ça se situe, le regard.
Alors, le pape François, on va dire que la sagesse qu'il propose, donc le deuxième point de cette béatitude, deuxième développement, alors qu'il, pour le coup, arrive à la fin, c'est cette exhortation de saint Paul, donc dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 15, « Pleurez avec qui pleure ». C'est des choses qu'on a pu déjà entendre. C'est un peu la ligne d'horizon que propose l'Église. Qu'est-ce que vous en comprenez de qu'est-ce que nous dit l'Église à propos de cette béatitude ?
Ça vient déjà de l'Ancien Testament, puisque Dieu dit qu'il consolera comme une mère. Donc, les affligés, c'est ceux qui souffrent de tout. C'est tout homme, en fait. Et quelque part, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on ait réussi, c'est vraiment pour tout homme, cette béatitude. Et chez les gens en très grande précarité, Oui, il y a beaucoup de pleurs. Peut-être que même il y a des moments où il n'y a plus de pleurs parce que les larmes ont séché. Mais certains disent « Dieu essuie mes larmes ». Voilà. Des fois, quand je pleure, ça fait pleurer mon mari. Et mon mari essuie mes larmes. Et pour moi, c'est comme Dieu quand il essuie mes larmes. Quand je craque, j'ai l'impression que le Seigneur est là pour me soulager, pour me protéger. Une autre dans notre groupe disait « Moi, je pleure tout le temps ». En fait, elle dit qu'elle fait bonne mine à l'extérieur, mais à l'intérieur, chez elle, elle pleure tout le temps parce que les gens sont méchants, parce qu'il n'y a pas d'avenir. J'ai envie de dire que les pauvres portent. Pleurer, c'est aussi porter la souffrance des autres. Et les pauvres le vivent radicalement.
Ils portent toutes nos misères, c'est ce que vous voulez dire.
Ils portent
en fait.
Ce mal.
Tous nos manques d'amour.
Ils pleurent, oui. C'est ce que dit cette femme. Tout le temps, je pleure. Ça fait des années qu'elle pleure. Et quand vous la voyez, elle est très souriante, elle est très accueillante, très heureuse d'aller vers les autres. Mais dès qu'elle se retrouve toute seule, elle a mal. Elle a vraiment très mal.
Vous rappeliez ce voyage que vous avez fait avec toutes les familles issues un peu de la mouvance de Joseph Brzezinski. J'ai souvenir que le pape François vous avait donné à l'occasion de cette rencontre une mission avait donné aux plus pauvres une mission qui était de prier pour les riches.
C'est ça.
Parlez-nous un peu de cette intention que le pape vous a confiée.
Les pauvres ont demandé une mission. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander quelle mission ils ont. Le pape a dit... Priez pour les riches, pour les responsables de votre pauvreté. C'est quelque chose de... Il faut mesurer ce que ça veut dire. Je veux dire que quand une mère se fait retirer ses enfants et qu'elle a plus aucun droit, un enfant, c'est le sens de sa vie. Et ça veut dire que pour eux, pleurer pour les responsables de leur pauvreté, c'est pleurer pour les juges, pour les avocats. C'est ce qui les détruit. Tout leur être. Et prier pour eux, alors c'est très difficile. Faut pas se leurrer. Et quand ils vous le disent, ils vous le disent avec un sourire. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que il y a pas cette violence. Il y a le désir d'entrer dans cette pas d'entrer dans la béatitude, mais d'entrer dans ce mouvement qui seul sauve. C'est-à-dire où il y a l'amour. Un autre disait finalement, il faut prendre un raccourci. Il s'agit d'aimer.
Si l'on rentre dans le troisième temps de cette béatitude, donc « Heureux les affligés car ils seront consolés », le pape François dit la chose suivante, je prendrai donc le début du paragraphe 76. « La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d'être authentiquement heureuse. » Il y a là donc une promesse de bonheur. Qu'est-ce que vous en comprenez, Nicole Vessière?
Ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu ce qui nous est donné à nous, les compagnons ou tous ceux qui cheminent avec les très pauvres. Je pense que là, c'est très large. Dans toute l'Église, on le vit parce que les mouvements caritatifs dans l'Église, ils existent depuis le début, en fait. Et Saint Vincent de Paul, hein, qui disait, vous pourrez à Sainte-Jeanne-Marie, vous pourrez donner de la nourriture, vous pourrez tout donner, mais si vous donnez pas votre amour, jamais le pauvre ne pourra vous le pardonner. C'est par votre amour qu'il pourra accepter vos dons. Donc, tout dans l'Église...
Alors, je vais vous aider, peut-être pour prolonger à propos des pleurs. Le pape François a souvent une expression, ou plutôt, il a souvent une invitation. Ça n'est pas c'est indirectement dans ce texte. Il dit qu'il faut pleurer, en fait, régulièrement, presque. C'était en 2013, il l'avait dit, mais je pense qu'il l'a redit depuis. Les larmes sont parfois comme des lunettes, dit-il, permettant de découvrir le vrai visage de Jésus. Tous dans notre vie, nous avons ressenti la joie, la tristesse, la douleur, a-t-il poursuivi. Mais avons-nous pleuré? Avons-nous eu cette bonté des larmes qui prépare les yeux à regarder pour voir le Seigneur? Un peu plus loin, les larmes nous préparent à voir Jésus. C'est ce qu'on comprend, Nicole Vessière, en fait, en parcourant ce passage. C'est que quand on a un cœur qui est capable de s'émouvoir de ce que vivent les autres ou de porter en fait la souffrance du monde ou le mal que font les autres ou qu'on fait soi-même, lorsqu'on a le cœur suffisamment tendre pour pleurer, eh bien la promesse c'est que Dieu vient à notre rencontre. C'est une promesse qui s'accomplit, que vous voyez s'accomplir.
Oui, Je reviens sur quelque chose d'une des personnes de notre groupe qui n'est plus de ce monde et qui aussi a passé sa vie à pleurer. Et elle disait, quand on est pauvre, ça aide à aller vers Dieu. Les gens, ils ont que ça, ils n'ont pas d'argent, ils ont rien. Que veux-tu qu'ils fassent ? Ils prient Dieu, ils se rapprochent de Dieu. Et alors une du groupe qui n'est pas réellement dans la grande précarité lui dit « Mais ça t'apporte quoi d'être pauvre ?» Et elle répond « La parole de Dieu. » Et là on mesure que c'est la parole de Dieu les réconforte, les soulage tous ces pleurs. Et nous les compagnons, si on se laisse toucher par leur vie, oui, quelque part aussi, nous pleurons. Et nous pleurons de plus en plus. Nous sommes de plus en plus sensibles à toutes les souffrances.
Est-ce que vous diriez que vous êtes de plus en plus heureux aussi, puisque c'est la promesse
oui,
normalement
de
ces béatitudes ?
En fait, en étant dans cette grande empathie, enfin je veux dire, en quelque part, il y a une osmose, il y a une sorte de vide qui se produit en nous parce qu'on n'a pas les réponses à tant de souffrances. Et quelque part, il y a une obligation de se tourner vers autre chose pour respirer, ça c'est insupportable. Donc quand on est chrétien, quand on a la chance d'avoir cette parole de Dieu et cet amour de Dieu, on se tourne vers lui et quelque part là, on reçoit. Et donc oui, on peut dire qu'on est heureux.
Et la conclusion de cette troisième béatitude, savoir pleurer avec les autres, c'est cela, la sainteté. Je rappelle donc les trois béatitudes, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. La conclusion du pape François, c'est être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté. Heureux les doux car ils posséderont la terre. La conclusion du pape François, réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Et heureux les affligés car ils seront consolés. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Pour finir, vous vouliez nous parler un peu de Saint-Germain de Pibrac. C'est dit qu'on essaierait de trouver, au long de ses méditations sur les béatitudes, une figure de sainte parlante. Pourquoi est-ce que vous avez choisi celle-là ?
Voilà, je fais un appel à Saint-Germain en ce matin. Parce que tout ce que nous venons de dire, j'espère que ça ne sera pas que des mots, que ça va vraiment nous engager, changer nos vies. C'est une petite chance que nous avons, nous les chrétiens, et qu'il faut participer à changer ce monde. Alors Sainte-Germaine, eh ben, c'est parce que c'est une sainte locale. Vous savez bien qu'on fait du local aujourd'hui. Et que Sainte-Germaine, dans la balance, c'est le contrepoids d'un saint Thomas d'Aquin qui est à Toulouse. Et saint Thomas d'Aquin, c'est quand même le docteur angélique. Et cette Sainte-Germaine, qu'est-ce qu'elle est ? Mais elle est rien. Elle est rien.
Donc il faut dire deux, trois mots de Sainte-Germaine. Sainte-Germaine, c'est donc une sainte qui a vécu près de Toulouse. Alors, pardon, je ne me souviens plus, je n'ai pas eu le temps de vérifier.
1600, quelque chose
d'accord,
comme ça.
D'accord, 17e siècle. Et voilà. Qui vivait en fait comme une...
Dans une métairie. Donc elle s'occupait des moutons. Elle a été orpheline. Elle a été rejetée par sa belle-mère. Elle n'avait pas le droit de parler aux enfants de sa belle-mère. Elle ne faisait que travailler. Et pourtant, elle faisait du bien. Si vous allez sur son site, vous verrez qu'en parallèle, on met chacune de ses actions et de ce qu'elle a vécu avec une béatitude. C'est étonnant. Je ne vais pas, vous voyez, ça correspond vraiment. Elle représente les béatitudes germaines. Et alors, ce que je voudrais dire, pourquoi je la choisis aussi, parce qu'à chaque fois que nous allons en pèlerinage là-bas, aux alentours du mois de juin, je suis très frappée de voir les gens en précarité. À Bartimée, on accueille aussi des non-croyants qui ont des parcours de galère. Eh bien, ils sont touchés par Germaine. Ils disent, oh, mais c'est même pas les hommes qui l'ont reconnu, c'est Dieu qui l'ont reconnu. Il y en a un cet été, qui, alors la messe et tout ça, il est plutôt du genre anarchiste, vous voyez, et qui racontait l'histoire de Germaine en disant, non mais tu te rends compte, elle plantait sa quille pour aller à la messe chaque jour. Et du coup, les moutons, ils se mettaient autour et les loups, ils n'osaient pas manger les moutons. Donc, on ne peut être que frappé que la vie de Saint-Germain est tellement vive et répond, est tellement en écho avec ce qu'ils sont, qu'ils sont touchés, croyants ou non-croyants.
Merci beaucoup Nicole Vessière. Pour finir, on pourrait réécouter un peu les paroles du pape François. C'est au début donc de ce troisième chapitre qu'on a parcouru à la lumière du maître. Écoutons encore Jésus avec tout l'amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d'un changement réel de vie. Merci beaucoup, Nicole Vessière, d'être venue. Et merci à la famille Bartimée, puisque vous les avez largement cités. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.